avec l'Observatoire sociopolitique diocésain. Bonjour à tous, nous retrouvons Olivier Drapé pour l'Observatoire sociopolitique diocésain. Bonjour Olivier.
Bonjour Alexandre, bonjour chers auditeurs. Alors je vais vous parler aujourd'hui du projet de loi, dont on ne connaît pas encore précisément le contenu, sur l'aide active à mourir qui sera présentée, semble-t-il, début 2024 en Conseil des ministres. C'est un sujet extrêmement délicat, il y a beaucoup d'émotivité dans ce sujet, bien sûr, aussi beaucoup de confusion, c'est la raison pour laquelle je commence peut-être par rappeler que ce qu'on appelle l'aide active à mourir peut désigner ce qu'on entend habituellement par suicide assisté, aussi bien que l'acte d'euthanasie, en précisant que le suicide assisté, c'est tout simplement le patient qui demande au médecin la prescription d'un produit létal pour se suicider, alors que l'euthanasie, c'est provoquer ou donner délibérément la mort du malade à sa demande. Les problèmes de sémantique sont, je crois, très importants quand on aborde ces sujets-là, notamment à propos de la notion de dignité. Il y a beaucoup de confusion qui vient du fait que le lobby le plus important, qui milite depuis des années très efficacement d'ailleurs pour la légalisation de l'euthanasie et du suicide assisté, s'appelle Association pour le droit de mourir dans la dignité. Et on voit donc transparaître une conception subjectiviste, en quelque sorte, de la dignité qui ne dépendrait pas de notre condition humaine, en quelque sorte, qui ne serait pas propre à la nature humaine, qui ne serait pas inhérente à tout homme et toute femme, mais qui dépendrait de nos capacités physiques, intellectuelles ou de l'utilité sociale du malade. C'est ce que suggère d'ailleurs un écrit de Odette Thibault, qui est cofondatrice de l'ADMD et qui écrivait en 1975 dans un livre qui s'appelle « La maîtrise de la mort » à propos des personnes qui ont perdu précisément leur faculté intellectuelle. Elle écrivait « Prolonger cette déchéance est une des plus grandes atteintes qu'on puisse porter à la dignité humaine ». Et finalement, pour lui répondre, j'ai envie de m'appuyer sur un philosophe, André Comte Sponville, qui, bien que plutôt favorable à l'euthanasie, écrit, lui, de son côté, « En quoi un polyhandicapé ou un grabataire sont-ils moins dignes de respect qu'un valide ? En rien, bien sûr. » Donc on voit très bien, effectivement, que ce qui motive chez beaucoup de Français qui sont très majoritairement apparemment favorables à une loi sur l'euthanasie ou le suicide assisté, c'est précisément cette peur de la déchéance, qui est une perte de dignité à leurs yeux, la peur de la perte d'autonomie, autrement dit la peur de la dépendance et surtout bien sûr de la souffrance et la peur de la mort elle-même. C'est ce qui explique, je crois, ces résultats de sondages qui montrent que 85% peut-être de nos concitoyens sont a priori plutôt favorables à une telle loi. En même temps, l'expression « mourir dans la dignité » est un piège, comme le relève de façon assez convaincante Tuc Dualderville de l'Alliance Vita, parce qu'elle suggère qu'il faudrait choisir entre souffrir atrocement ou mourir dignement par euthanasie ou par suicide assisté. Or, on sait très bien que la fin de vie et la mort sont inévitablement, et les lois n'y changeront jamais rien, une terrible épreuve pour n'importe qui, pour n'importe lequel d'entre nous, aussi bien que pour les proches, bien entendu. Mais dans la quasi-totalité des cas, il faut savoir qu'il est, grâce au progrès de la science, aujourd'hui possible, dans la quasi-totalité des cas, de soulager les souffrances physiques par lesquelles passe effectivement un très grand nombre de mourants ou de malades. À propos des sondages d'opinion auxquels je faisais référence il y a un instant, il y a aussi peut-être une confusion que je souhaiterais souligner, qui est la suivante. Je crois que les 85 ou 90% des Français qui pensent être favorables ou auxquels on fait dire qu'ils sont favorables à l'euthanasie sont en réalité, et à juste titre d'ailleurs, hostiles à l'acharnement thérapeutique. Ils ne savent pas suffisamment, à mon avis, ou beaucoup ne savent pas, que depuis 2005, la loi française interdit l'acharnement thérapeutique. Ils ne savent pas non plus suffisamment que depuis 1999, ils ont théoriquement le droit de bénéficier des soins palliatifs, dont précisément la raison d'être est de les accompagner tout en soulageant les souffrances qui sont les leurs du fait de la maladie ou de la vieillesse. J'ajoute d'ailleurs que la loi de 2016, dite loi Claeys-Leonetti, prévoit par ailleurs, dans les cas les plus extrêmes, la possibilité de ce qu'on appelle une sédation profonde et continue jusqu'au décès, bien que celle-ci reste une pratique exceptionnelle, ce qui montre bien que la réalité est plus complexe peut-être que les Français ne l'imaginent, qui craignent effectivement de devoir eux-mêmes passer par des souffrances épouvantables sans pouvoir être accompagnés ou aidés dans leurs difficultés de fin de vie. Il y a pourtant dans cette affaire un principe fondateur qui est en jeu, qui est bien entendu le respect de la vie. Il ne faudrait pas trop rapidement s'asseoir sur un principe qui fonde notre civilisation. Et en l'occurrence, je me permettrai de citer un extrait bien connu du serment d'Hippocrate. « Je ferai tout pour soulager les souffrances, je ne prolongerai pas abusivement les agonies, je ne provoquerai jamais la mort délibérément. » Comme je me permettrai aussi de rappeler l'article 38 du Code de déontologie médicale qui précise « Le médecin doit accompagner le mourant jusqu'à ses derniers instants, assurer par des soins et mesures appropriées la qualité d'une vie qui prend fin, sauvegarder la dignité du malade et réconforter son entourage. Il n'a pas le droit de provoquer délibérément la mort. » Et j'insiste sur ce point dans la mesure où la vocation des médecins n'est certainement pas de donner la mort. D'ailleurs, les médecins considèrent que donner la mort n'est pas un soin, et les sondages ont montré que les médecins et professionnels de la santé sont très majoritairement hostiles à une loi sur l'euthanasie ou le suicide assisté. Plus encore, d'ailleurs, l'écrasante majorité des médecins et personnels de santé impliqués dans les soins palliatifs sont radicalement hostiles à l'euthanasie ou au suicide assisté. La mission des médecins est clairement de soulager la douleur, d'accompagner jusqu'au bout des personnes qui ont besoin de l'être, mais pas de donner la mort. Et ensuite, je considérerais volontiers qu'une nouvelle loi n'est nullement nécessaire. Je le disais, depuis la loi Leonetti de 2005, depuis la loi Claeys-Leonetti de 2016, le malade a le droit de refuser, d'ailleurs le médecin a même l'obligation, d'interrompre ce qu'on appelle des soins manifestement disproportionnés, c'est-à-dire qui ne portent plus de fruits sur le plan thérapeutique et qui imposent au malade des contraintes insupportables. Donc l'acharnement thérapeutique est interdit. Et puis il y a exceptionnellement cette possibilité de sédation profonde et continue jusqu'au décès. Si bien que le Conseil national consultatif d'éthique, dont les membres sont pourtant majoritairement favorables aux avancées sur ce terrain de l'euthanasie ou du suicide assisté, en déclarant qu'il pourrait y avoir une exception d'euthanasie, ce Conseil national consultatif d'éthique reconnaît malgré tout, je cite, que la loi actuelle permet de répondre aux demandes de malades dans la quasi-totalité des cas. Ensuite, je voudrais mettre le doigt sur une illusion ou un leurre qui consisterait à penser que l'encadrement de ces pratiques, que des conditions qu'on poserait, les limites ou les garde-fous qu'on essaierait de mettre en avant, serait une garantie pour éviter ce qu'on appelle des dérives ou des dérapages. En fait, dès qu'une digue aussi importante que le principe fondateur du « tu ne tueras pas » est emportée, on sait très bien que l'exception finit ou risque de finir par devenir la règle, tout simplement parce que si le principe fondateur est battu en brèche ou emporté, les limites n'ont finalement quasiment plus aucun sens. C'est une question d'évolution, c'est une question de temps. D'autant que la loi va contribuer d'une certaine manière, étant normative, elle conditionne l'évolution des mentalités et des mœurs, et elle va contribuer à banaliser de plus en plus l'euthanasie, et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé dans la plupart des pays, dans la totalité des pays étrangers qui nous ont devancés sur le terrain législatif. Et là, je cite un passage qui me paraît très intéressant, d'un article de Chantal Delsol du 15 décembre 2022, dans lequel elle écrit « On jure que le suicide assisté ne concernera que des personnes volontaires et pleinement conscientes, et finalement, la loi s'applique aux enfants et aux handicapés. Les Belges ont proclamé au départ la nécessité du consentement libre et éclairé, et aujourd'hui, ils légitiment l'euthanasie d'enfants. Au Canada, l'euthanasie a été légalisée en 2016 pour des adultes conscients et demandeurs, porteurs de maladies graves et irrémédiables, sous des conditions précises, lesquelles ont disparu rapidement, ce qui porte dans certaines régions à 5% des décès, le pourcentage des euthanasies. Aux Pays-Bas, la loi qui concernait des adultes conscients en phase terminale s'est étendue à toutes les pathologies et handicaps ainsi qu'aux enfants. Et il est question aujourd'hui de l'étendre aux personnes âgées sans pathologie. En outre, la loi ne fait pas baisser le chiffre des suicides qui, pendant cette période, a au contraire augmenté. » Donc on voit bien qu'il y a effectivement un risque de dérapage considérable qui est finalement inhérent à ce type de loi. La conséquence et la conclusion que j'en tire est celle que nous avons déjà eu l'occasion d'aborder ici même. Nécessité, urgence de développer à tout prix les soins palliatifs, ces unités qui accompagnent jusqu'au bout en soulageant autant que possible les souffrances à la fois physiques et psychiques des malades et des personnes en fin de vie, quel que soit d'ailleurs le coût que cela représente, car il est évident que c'est une question financière, mais c'est d'abord et avant tout une question de volonté politique.
Merci beaucoup, Olivier Drapé. Bonne fête de Noël et nous vous retrouverons l'an prochain, au mois de janvier. Merci. Avec l'Observatoire sociopolitique diocésain.